Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La guerre en Ukraine aggrave l'insécurité alimentaire au Liban. Le pays est très dépendant des exportations de blé d'Ukraine et de Russie. Notre invité sera Fouad Smohol, président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde. Le président ukrainien s'exprimera à 15h en visioconférence à l'Assemblée nationale française. Il tentera d'obtenir davantage de soutien à son pays au 28e jour de l'invasion russe en Ukraine. Les talibans ont ordonné aujourd'hui la fermeture des collèges et lycées pour les filles en Afghanistan. Ils devaient rouvrir aujourd'hui. Avant le premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain, gros plan sur le mal logement et sur le sans-abrisme. Le collectif des associations unies lance une action collective cet après-midi place de la République à Paris. Rassemblement en présence notamment de Bérangère Grisoni qui préside le collectif Les Morts de la Rue. Nous l'écouterons dans votre édition. Les conséquences de la guerre en Ukraine, au Liban, la guerre qui aggrave l'insécurité alimentaire dans le pays du Cèdre, le pays en proie à une très grave crise économique et financière et très dépendant des exportations de blé d'Ukraine et de Russie. Entretien avec Fouad Smohol, président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde.
Tous les pays du monde vont être directement affectés parce que les répercussions immédiates de ce conflit, qu'on soit au Liban, ou au Zimbabwe, sont plus ou moins les mêmes. C'est d'abord, on a vu qu'il y a eu une rupture et un changement de tout ce qui est les réseaux de communication, ce qu'on appelle en anglais le supply chain. On a vu une augmentation énorme des prix pétroliers et de gaz, ce qui est normal dans cette région et qui vont toucher tous les pays importateurs directement. Et d'autre part, bien sûr, nous parlons de l'agriculture, du blé ou autre. Donc aujourd'hui, cette guerre froide ou cette guerre chaude entre ces deux pays va avoir des effets néfastes sur tout le monde économique. Et surtout, bien sûr, je parle de l'Europe autant que d'autres pays, et surtout les pays dépendants de l'importation, dont le Liban. Donc aujourd'hui, c'est un peu cette vision. Il ne faut pas oublier que le monde n'est pas encore sorti, n'a pas pensé ses blessures de la guerre contre la Covid, qu'on a nommé aussi une guerre mondiale contre ce fléau qui a arrêté toutes les économies du monde, ou qui a enchaîné les économies du monde durant presque 2 ans. Donc on parlait encore de reprise de la sortie de la pandémie, et nous voilà dans une nouvelle guerre froide.
C'est pourquoi l'on parle de l'aggravation de l'insécurité alimentaire. Cela s'ajoute aux conséquences de la crise sanitaire internationale.
Exactement. Quand on va prendre le cas du Liban spécifique, du moment où on est posé la question, mais c'était important de mettre un peu la vision un peu globale. Quant au Liban, le Liban vit sa crise économique et sociale la plus grave de son histoire, pour ne pas dire la crise économique et sociale la plus grave du monde, suivant les dires de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et autres. Il faut rappeler que le Libanais a perdu 90% de ses dépôts, 90% de ses rentrées, 90% de son niveau de vie, et il vit une inflation de plus que 1500%, c'est-à-dire que le prix les prix de ses besoins humanitaires et ultimes ont été multipliés par 15 ou par 20. Donc imaginez ces deux chiffres, on perd 80% des rentrées, des dépôts, du niveau de vie, et on fait face à une inflation de 1500%, donc tous les prix sont multipliés par 15 ou 20, parce que 80% des besoins alimentaires humanitaires, du Libanais sont importés. Donc maintenant, on vient ajouter sur ça cette nouvelle guerre froide ou guerre chaude, ça dépend comment on va la voir. Donc évidemment, le Libanais, le Liban ne peut supporter. Aujourd'hui, le prix de l'essence, quand on a enlevé les subventions, a été multiplié par 15. Ben, aujourd'hui, avec un baril à 130 ou 140 ou 150 et peut-être plus, sera impossible au niveau public et au niveau privé. C'est-à-dire qu'on va parler sur des barils d'essence, 20 litres d'essence vont coûter plus que le salaire minimum de quelqu'un qui travaille. Donc on parle de niveaux de pauvreté qui ont dépassé les 80% au Liban et une crise sociale impossible. Donc on s'attend malheureusement à des pénuries, d'essence, de gaz, parce qu'il n'y a pas de quoi payer. Ni l'État n'a de quoi les payer, ni le secteur privé n'a de quoi les payer, puisqu'on a une pénurie en ressources et une pénurie en liquidité, ce qu'on appelle les frais dollars, donc des vrais dollars ou des euros. Finalement, concernant le blé, c'est vrai que le Liban importait 350 000 tonnes de l'Ukraine. C'est vrai qu'il peut changer ses importations, mais ceci va prendre du temps. Et le problème, ce n'est pas l'importation, c'est le stockage. Il ne faut pas oublier que le Liban a fait face à la troisième plus grande explosion du monde le 4 août, où les silos de blé ont explosé. Donc il n'y avait même plus de stockage, ce qui montre que les stocks qui sont présents encore au Liban vont vite disparaître. Donc évidemment, cette guerre dramatique aura un impact sur le monde, une inflation mondiale, une inflation évidemment sur les liquidités, et on a vu comment les économistes, je veux dire, les fonds se sont dirigés de plus en plus vers l'immobilier, vers les bitcoins et tout ce qui est sur les devises, je dirais, électroniques. Quant au Liban, ben finalement les devises n'existent pas, donc cette crise était là. Donc malheureusement, je ne peux qu'être réaliste, mais en même temps un peu pessimiste sur l'effet économique et social sur le Liban.
Vous dites que le Liban peut changer ses importations. Quels peuvent être les nouveaux pays exportateurs?
Si on parle de blé et autres, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers l'Inde, entre autres, mais ceci prendra du temps, parce qu'il faut rebâtir, je dirais, ces relations. Il faut le temps d'export va être beaucoup plus long, et aussi il faut avoir la liquidité en devise, ce qui n'existe pas au Liban. Je dis qu'on peut parce que bon, on peut pas dire que l'Ukraine est le seul pays exportateur, mais on a des relations de très longue date sur le blé et autres, et ceci va causer. Si on parle de l'Ukraine, je sais qu'on parle aussi de l'ammoniac, nous parlons du cuivre et autres denrées qui non seulement aidé le Liban, mais aussi l'Europe, et aujourd'hui tout ceci va être pris en étau, et ce conflit, comme on regarde, est prêt à perdurer, c'est-à-dire il va doucement dans le sens, ce qui ne s'arrête pas, mais il continue à petit feu dans le sens que ceci est encore beaucoup plus grave. Donc chaque jour qui passe, on est encore plus loin d'une solution.
Avec aujourd'hui les trois quarts des Libanais qui vivent sous le seuil de pauvreté.
On a passé les 80%, donc on a passé les trois quarts, nous parlons de 80 à 83% aujourd'hui, avec un salaire minimum qui ne peut même plus payer un bidon d'essence. J'aime toujours rappeler ces points, donc un seuil de pauvreté qui est très grand, une employabilité et un taux de chômage énorme. On n'a pas de chiffres exacts, mais je pourrais m'aventurer et dire que 30% de la population active est sans travail, et je dis après la Covid, après la crise économique et sociale libanaise atypique, et on vient ajouter aujourd'hui une crise mondiale économique. Malheureusement, le Liban ne peut pas y faire face directement. Et je redis les manques de devises, le non-investissement, la non-croissance aujourd'hui, tout ceci ne fait qu'ajouter les problèmes. Et on se bat autant qu'on peut. Je dois toujours ajouter que le Libanais, l'entrepreneur libanais ne se rend pas. On a toujours été fiers de notre résilience, mais cette fois-ci, le coût est trop grand. Le coût est trop grand et il y en a plusieurs en même temps.
Et vous rappelez que les réserves de la Banque centrale sont au plus bas après 2 ans et demi d'une grave crise économique et de liquidité.
Les réserves de la Banque centrale sont au plus bas, oui, après 2 ans de crise. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que durant un bon moment, ils ont été épuisés par une politique de l'ancien gouvernement qui a continué les subventions et dont une grande partie des subventions sortaient en dehors du pays, ce qui a ouvert une contrebande assez grande. Ces subventions, d'après les chiffres, ont coûté plus que 18 milliards de dollars et moins que 20% de la population a eu en profité. Donc ces réserves sont tombées pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu aussi des transferts illicites qui ont été faits. En deuxième lieu, ça a financé une grande partie de la contrebande qui sortait des frontières libanaises et non pour aider la population. Et bien sûr qu'il n'y a plus de rentrée. Donc si on prend ces trois points, il n'y a plus de rentrée en devise parce qu'on a perdu la confiance dans le secteur bancaire, la confiance dans le secteur, dans l'économie, dans l'investissement. Donc si on a énormément de demandes, beaucoup plus que ce qu'on peut, et il n'y a pas d'offres, donc oui, les réserves tombent, vont tomber, et on n'a pas de devises. Nous imprimons des livres libanaises et non des devises étrangères. Et voilà pourquoi la livre libanaise perd de sa valeur. Donc au niveau monétaire, ce que la Banque centrale a fait, ils sont en train de retirer les devises pour essayer de ne pas perdre encore plus de leur valeur, mais on n'a pas assez de devises étrangères en dollars, en euros, qui puissent continuer sur notre économie. Bien que notre PIB est tombé de 55 milliards à 20 milliards, mais même ces 20 milliards ne sont pas sur le marché. On a toujours un peu de transfert des expatriés libanais, ce qui permet à une grande partie de la population de vivre ou de survivre. Et ces transferts ne transitent plus par le secteur légal, donc ne transitent plus par les banques et autres, donc ils ne rentrent plus dans le système économique. Mais en même temps, on a une grande crise de confiance, une grande crise de liquidité. Et encore une fois, je dois réinsister que le Liban importe 80% de ses besoins, que ses besoins de tout genre, que ce soit dans les médicaments, humanitaires, et finalement, il faut des devises pour financer tout ça. Donc les devises, si on va aller les amener du marché noir, ce qui se passe aujourd'hui, voilà pourquoi le marché noir bondit sur des chiffres très hauts, et ça ne fait que creuser encore plus l'écart social qui se passe sur le pays.
Fouad Smokol, président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais dans le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera à 15h en visioconférence à l'Assemblée nationale en France. Il tentera d'obtenir davantage de soutien à son pays au 28e jour de l'invasion russe en Ukraine. Le président ukrainien enchaîne ces derniers jours les interventions devant les parlements nationaux. L'Ukraine, où quelques 100 000 civils sont toujours coincés dans la ville portuaire de Mariupol, où les chars russes siègent encore. Un mois jour pour jour après le déclenchement de l'invasion, les Occidentaux se réuniront demain à Bruxelles pour des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. À la clé, de nouvelles sanctions contre la Russie, selon le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, le président américain qui se rendra ensuite en Pologne, pays qui accueille la plupart des 3,5 millions de réfugiés ukrainiens. La Russie utilisera l'arme nucléaire en Ukraine en cas de menace existentielle contre la Russie. Une affirmation du porte-parole du Kremlin. Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public. Vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine, selon les mots du Kremlin. Le président turc demande à l'Union européenne de relancer les négociations d'adhésion avec Ankara. Une déclaration alors que la Turquie, membre de l'OTAN, se place comme médiateur entre Kiev et Moscou concernant la guerre en Ukraine. Les pourparlers sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union, démarrée en 2005, se sont enlisés ces dernières années. Les talibans ont ordonné aujourd'hui la fermeture des collèges et lycées pour les filles en Afghanistan. Une décision seulement quelques heures après leur réouverture. La communauté internationale a fait du droit à l'éducation pour tous un élément essentiel dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance du régime des fondamentalistes. Des dizaines de milliers de filles étaient censées retourner ce mercredi à l'école secondaire, plus de 7 mois après l'arrivée au pouvoir des talibans qui ont fortement restreint les droits des femmes à l'éducation et au travail. 16 soldats maliens ont été tués lundi dans le centre et l'est du pays. Cela s'est produit dans 2 attaques distinctes imputées aux djihadistes. L'une d'elles a été revendiquée par l'organisation État islamique. Un précédent bilan faisait état de 4 soldats maliens tués. L'armée a indiqué hier soir avoir neutralisé, selon son propos, 37 terroristes. Le rapatriement des enfants étrangers de djihadistes présumés détenus dans les camps du nord-est de la Syrie va s'éterniser, crainte formulée par l'ONG Save the Children. L'ONG indique que plus de 25 000 enfants sont retenus dans les camps d'Al-Hol et de Roj, parmi eux 18 000 enfants irakiens et 7 300 mineurs originaires d'autres pays. Quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, le 10 avril prochain, gros plan sur le mal logement et sur la situation des personnes sans abri. Les 39 membres du collectif des associations unies lancent un appel à une action collective pour rappeler que le logement doit être l'une des grandes causes du prochain quinquennat. Un rassemblement dans quelques minutes dès 12h30, place de la République à Paris. Rassemblement en présence notamment de Bérangère Grisoni, la présidente du collectif Les Morts de la Rue. Bérangère Grisoni.
Beaucoup de personnes ne mesurent pas l'ampleur de la catastrophe. Chaque année, on mène un recensement au collectif Les Morts de la Rue et on dénombre au minimum environ 600 personnes qui décèdent des conséquences d'un passage qui peut être plus ou moins long, d'un temps de vie sans hébergement à la rue ou en centre d'hébergement d'urgence, mais en tout cas pas avec un habitat. Donc ça, c'est vraiment faire savoir cette réalité. Ça se passe chez nous, ici en France. Ces personnes qui décèdent décèdent à un âge extrêmement bas. La moyenne actuellement est de 48 ans et demi. Donc ça représente plus de 30 ans de différence par rapport à la moyenne nationale. Donc c'est vraiment le premier message, faire savoir cette triste réalité. Ensuite, c'est un message de dire, pas du tout culpabilisant. On y est pour rien, mais on y peut tous quelque chose. Déjà, en le sachant, on peut s'investir et on a de nombreux bénévoles qui sont au collectif Les Morts de la Rue et qui contribuent à différentes missions. Nous, au niveau du collectif et toutes les associations qui sont membres du collectif, c'est de pouvoir notamment, à travers notre plaidoyer, à travers une enquête épidémiologique, dénombrer et décrire, c'est de pouvoir être un observatoire, de dénoncer ces causes et de pouvoir contribuer à alimenter cet observatoire et surtout tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas une fatalité. Il faut vraiment éviter que des personnes soient dans une situation sans habitat. Il faut vraiment éviter que des personnes se retrouvent à la rue. Donc c'est pour ça notamment qu'on fait partie du collectif des associations unies, les 39 associations.
Et vous rappelez que la rue, l'absence de toit tue.
Malheureusement, oui, mais c'est une triste réalité. On avait, il y a quelques années, recoupé nos données avec celles de l'INSERM CEPIDC et ils avaient constaté que le recensement que l'on produit, on était environ à 17% de la réalité. On a pour l'instant, on a recensé 623 personnes décédées des conséquences d'un passage de vie à la rue. 623 personnes décédées au moins, ce sont les décès dont nous avons eu connaissance en 2021. Et si on se rapproche de ce que nous avait dit l'INSERM CEPIDC il y a quelques années, si on est toujours à 17%, ça fait plus de 3600 personnes qui seraient décédées en France en 2021 des conséquences d'un passage de vie à la rue.
Bérangère Grisoni, présidente du collectif Les Morts de la Rue. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 16, à midi 30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.